Bayle Chanis s'assit avec légèreté et dit « Quel honneur, monsieur! Mais je dois dire que cela ne me surprend qu'à moitié. » Le mulet entreprit aussitôt de frictionner son impressionnant appendice nasal, tâche à laquelle il n'était pas superflu de consacrer 4 doigts à la fois, et répondit avec une légère irritation dans la voix. « Comment cela, jeune homme? Que voulez-vous dire ?»« Une intuition, je suppose. Sinon, il me faudra avouer que j'ai prêté l'oreille aux rumeurs. »
« Aux rumeurs ? À laquelle en particulier ? Il en circule tellement. »
« À celle qui prétend qu'une nouvelle offensive galactique se prépare. Je nourris l'espoir que cette rumeur contienne une part de vérité et que je sois appelé à y jouer un rôle approprié.
Dans ce cas, vous croyez sans doute que la seconde fondation existe réellement. »
Pourquoi pas? Cela rendrait les choses tellement plus intéressantes.
Vous exprimez là un point de vue personnel?
Mais certainement. C'est le mystère lui-même qui m'intrigue dans tout cela, voyez-vous. Quel meilleur sujet de conjecture pourrait-on trouver? Les éditions spéciales de la presse ne parlent plus que de cela depuis quelque temps. Ce n'est sûrement pas un hasard. L'un des collaborateurs les plus en vue de Cosmos a même reçu commande d'un récit fantastique, une histoire de planète dont les habitants seraient en fait de purs esprits. Il s'agit bien entendu de la seconde fondation, et qui aurait développé leur puissance psychique au point de concurrencer toutes les sources d'énergie connues de la science. Ils seraient capables de faire exploser des vaisseaux à plusieurs années-lumière de distance, de faire sortir les planètes de leurs orbites.
Effectivement, c'est intéressant. Mais vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous quelques notions sur le sujet? Êtes-vous convaincu de l'existence de ce pouvoir psychique?
Par la galaxie, bien sûr que non, voyons. Croyez-vous que des créatures pareilles resteraient confinées sur leur planète? Non, monsieur. Je pense que la seconde fondation demeure cachée parce qu'elle est plus faible que nous ne le pensons.
Dans ce cas, je puis m'expliquer fort aisément. Que diriez-vous si je vous confiais le commandement d'une mission destinée à trouver la seconde fondation?
Pendant un instant, Chanis se trouva pris de court, comme si les événements se précipitaient à un rythme plus rapide que celui qu'il avait prévu. Sa langue avait apparemment subi une paralysie momentanée et le silence se prolongeait.
« Eh bien ? » demanda sèchement le mulet.
Le front de Chanis se plissa tout à coup, et il répondit
« Certainement.
Mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Vous avez des informations ?»«
Le général Preacher vous accompagnera. »
« Mais ce n'est pas moi qui devais commander l'expédition ?»«
Attendez que j'aie terminé avant de conclure. Dites-moi, vous n'êtes pas originaire de la Fondation, n'est-ce pas? Vous êtes bien né sur Kalgan. »
Dans ce cas, votre connaissance du plan Seldon doit être plutôt rudimentaire. Voici en quelques mots de quoi il s'agit.
Le premier empire galactique venait alors d'amorcer son déclin. Analysant l'avenir selon des théories mathématiques dont l'usage s'est perdu en ces temps de profonde décadence, Harry Seldon et un groupe de psychohistoriens ont établi 2 fondations. L'une étant située à l'autre bout de la galaxie par rapport à l'autre, de façon à servir de point de départ à un second empire par le jeu lent mais sûr des forces socio-économiques à l'œuvre. Harry Seldon avait compté sur 1 millier d'années pour accomplir son dessein. 30 000 ans eussent été nécessaires en l'absence des fondations pour aboutir au même résultat, soit dit en passant. Mais c'était compté sans mon intervention. Je suis un mutant. La psychohistoire ne pouvait pas me prévoir. Elle ne voit que les foules. Elle ne s'appuie que sur la loi des grands nombres. Vous me suivez jusque-là?
Parfaitement, monsieur. Mais en quoi cela me concerne-t-il?
Vous allez comprendre. j'ai l'intention d'unifier la galaxie. Maintenant, sans plus attendre, je compte atteindre en 300 ans l'objectif auquel Seldon avait assigné un délai de 1000 ans. Une des deux fondations, celle des spécialistes de la physique, est encore florissante. Celle-ci est désormais sous mon contrôle. Grâce à la prospérité, à l'ordre qui règne au sein de l'Union, aux armes atomiques qu'ils ont inventées, nous sommes capables de rivaliser avec n'importe quelle autre puissance connue dans la galaxie. À part peut-être la seconde fondation. Mais comment le savoir? C'est pour m'en assurer que j'ai besoin de rassembler sur cette fondation-là le plus de renseignements possible. Le général Pritchard soutient qu'elle n'existe pas. Moi, je sais qu'il se trompe.
Et comment le savez-vous, monsieur ? Demanda Chanis en prenant bien soin de donner à sa question un ton résolument diplomatique. La voix du mulet s'emplit pourtant d'indignation.
Parce que des cerveaux soumis à mon contrôle ont été influencés. Oh ! En douceur, cela va de soi, avec une subtilité extrême, je vous l'accorde. Mais pas au point que la chose m'échappe. Ces interférences se font de plus en plus fréquentes et affectent des hommes de valeur au plus mauvais moment. Vous étonnerez-vous à présent qu'une certaine discrétion m'ait contraint à l'immobilité au cours de ces dernières années? C'est là que vous intervenez, et c'est en cela que réside votre importance.
Le général Pritchard est un homme de valeur, il ne m'en reste pas de meilleur, à vrai dire. C'est bien pourquoi il est désormais en danger. Bien entendu, il ignore ce détail.
Mais vous? Vous n'êtes pas un converti. On ne peut donc pas vous identifier immédiatement comme étant un agent du mulet. Vous êtes susceptible d'abuser la seconde fondation plus longtemps qu'aucun autre de mes subordonnés. Voilà qui pourrait bien faire la différence au bout du compte. Comprenez-vous? À présent?
Oui. Mais veuillez me pardonner, monsieur, si je vous interroge à nouveau. De quelle façon s'y prend-on pour perturber ainsi le psychisme de vos hommes? Il faudrait que je puisse détecter un tel changement chez le général Pritchard s'il venait à se produire. Les victimes subissent-elles, comment dire, une déconversion? Deviennent-elles subitement déloyales?
Non. Je vous ai dit que le changement était subtil. Mais il n'en est que plus inquiétant, en un sens, parce qu'il est d'autant plus difficile à détecter, et parfois, je dois me résoudre à attendre avant d'agir, faute de savoir avec certitude si un homme occupant un poste clé a commis des erreurs normales, ou bien si son cerveau a été influencé pour commettre des erreurs qui se révéleront au contraire préméditées et d'importance stratégique. La loyauté des hommes affectés demeure intacte, mais ils ont perdu toute initiative, toute ingéniosité.
Il me reste un individu parfaitement normal en apparence, mais complètement inutilisable. 6 personnes ont subi le même sort au cours de l'année dernière, 6 de mes meilleurs sujets. Un coin de sa bouche se souleva.
Ils ont été depuis affectés au commandement de camps d'entraînement. Inutile de vous dire que je leur souhaite très sincèrement de ne pas avoir à prendre de décision en urgence en cas d'événements imprévus.
Mais, monsieur, supposez que la seconde fondation ne soit pas en cause. Et si cela venait d'un autre, je veux dire, un autre comme vous, un mutant.
Tout cela est trop soigneusement planifié, et sur une période de temps bien trop importante pour que cela puisse être le fait d'un seul homme. Un individu isolé ferait preuve de plus de précipitation, croyez-moi. Non. C'est bien une planète tout entière qui est à l'œuvre ici.
Et je dispose désormais d'une arme adéquate pour la combattre. Cette arme, ce sera vous.
À ces mots, le regard de Chanis s'illumina. Vous me voyez ravi d'un tel honneur.
Mais le mulet capta la bouffée d'émotion soudaine qui avait saisi le jeune homme. Oui. Vous pensez apparemment que cette mission hors du commun vous vaudra une récompense à la mesure de vos exploits, que peut-être vous serez amené à me succéder un jour. Qui sait? Vous avez raison. Mais vous devez savoir que je sais aussi, en cas de besoin, imposer des châtiments tout aussi hors du commun. Mes performances psychiques ne se limitent pas seulement à susciter de la loyauté dans l'esprit de mes sujets.
Insensiblement, ses lèvres se plissèrent en un rictus mauvais. Au comble de l'horreur, Chanis bondit alors hors de son siège, car l'espace d'un instant, d'une fraction de seconde peut-être, le jeune homme s'était senti la proie d'un désespoir incoercible, aussitôt accompagné d'une sensation de douleur physique qui avait plongé son esprit dans d'insupportables ténèbres. Puis tout avait disparu. Il ne restait rien. Rien qu'une intense bouffée de colère qui menaçait de l'étouffer.
« La colère ne peut rien vous apporter, »
dit alors le mulet.
« Oui. Je vois que vous faites votre possible pour la dissimuler. C'est bien cela, n'est-ce pas? Je la vois. Néanmoins, elle est là. Alors, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Cela pourrait recommencer à tout moment. Plus fort, plus longtemps. J'ai déjà tué des hommes comme cela, rien qu'avec mon esprit. Il n'existe pas de mort plus cruelle que celle-là, croyez-moi.
Après un court silence, il ajouta : Ce sera tout. Le mulet était seul de nouveau. Il laissa les lumières s'éteindre et le mur qui se trouvait devant lui reprit sa transparence. Le ciel était entièrement noir à présent, et la galaxie montait au firmament, masse formidable, étendant ses ramifications à travers les profondeurs veloutées de l'espace. Ce halo de nébuleuses représentait, il le savait, un nombre infini d'étoiles. Des étoiles si nombreuses qu'elles se confondaient les unes avec les autres pour ne plus former qu'un vaste nuage de lumière aux dimensions de l'univers. Et tout cela serait à lui, enfin. Il ne lui restait plus qu'une seule disposition à prendre avant d'aller dormir. Premier interlude. Le conseil exécutif de la seconde fondation tenait alors ses assises. Intéressons-nous avant tout à ce que ces voix du passé ont à nous dire. Le décor exact de la réunion, l'identité précise des membres présents ne sont pas véritablement essentiels à notre propos. Nous ne pouvons pas davantage envisager de retranscrire ici dans le détail une partie quelconque de la séance, sauf à sacrifier totalement le minimum d'intelligibilité que nous sommes en droit d'attendre d'un tel récit. Nous avons affaire ici à des psychologues. Mais pas uniquement à des psychologues, à vrai dire. Disons plutôt à des physiciens qui se seraient par la suite délibérément spécialisés en psychologie. Autrement dit, des hommes ayant une conception fondamentale de la philosophie scientifique entièrement différente de toutes celles que nous connaissons. La psychologie, telle que peuvent la concevoir des savants nourris depuis toujours d'axiomes déduits des méthodes d'observation propres à la physique, ne possède que de très lointains rapports avec la psychologie académique telle qu'on la pratique d'ordinaire. En disant cela, soyons francs, J'ai bel et bien l'impression d'avoir essayé d'expliquer la couleur à un aveugle, étant entendu que je suis moi-même aussi aveugle que le reste de l'assistance. Mais passons. Je voulais en venir à ceci. Que les esprits rassemblés ce jour-là possédaient une compréhension parfaite du travail intellectuel de chacun des participants. Non seulement sur le plan de la théorie générale, mais aussi grâce à l'application spécifique de ces théories sur des individus particuliers au cours de longues périodes. Les discours formels, tels qu'on les conçoit d'ordinaire, n'avaient plus la moindre raison d'être pour ces gens-là. Le moindre petit fragment de phrase prenait aussitôt à leurs yeux la valeur d'une longue déclaration. Un geste, un grommellement, l'expression la plus fugitive, voire un silence judicieusement calculé, pouvait fournir à ses initiés les informations les plus substantielles. Nous prendrons donc la liberté de traduire largement une petite fraction de la conférence en utilisant les combinaisons de mots nécessaires à l'entendement d'intellect formé depuis l'enfance à la pratique de la philosophie scientifique. Dussions-nous, ce faisant, omettre les nuances les plus délicates. L'une de ces voix prédominait largement sur les autres. L'individu en question ne nous est connu tout simplement que sous le nom de « premier orateur ». Il s'exprima en ces termes. Selon toute apparence, nous avons maintenant définitivement établi la nature du facteur qui a réussi à contrer le premier élan du mulet dans sa frénésie de conquête. Je ne puis dire que ce résultat soit apporté, comment dire, au crédit de notre génie de l'organisation. Apparemment, le mulet a été à deux doigts de nous repérer, grâce à l'énergie mentale artificiellement potentialisée de ce que ceux de la première fondation appellent un psychologue. Ce psychologue a été tué au moment précis où il allait communiquer son information au mulet. Les événements qui ont conduit à cette exécution furent entièrement fortuits, en dépit de tous les calculs effectués en deçà de la phase 3. Je vous cède la parole. Une simple inflexion de voix avait suffi à désigner le nouvel orateur, celui que nous appellerons le cinquième orateur.
« Il est certain,
commença-t-il sur un ton d'une extrême gravité,
que des erreurs ont été commises. Nous sommes, bien entendu, particulièrement vulnérables à une attaque massive, en particulier à une attaque organisée par un prodige mental tel que le mulet. Peu de temps après avoir acquis une renommée certaine grâce à la conquête de la première fondation, une année après pour être exact, il se trouvait déjà sur Trentor. Moins de 6 mois plus tard, il aurait lancé l'assaut contre nous, et le rapport des forces eût été de façon écrasante en notre défaveur, 96,3% plus ou moins 0,05% en chiffre exact. Nous avons consacré un temps considérable à l'analyse des forces qui ont provoqué l'arrêt brutal de son action. Nous connaissons, bien entendu, le mobile premier de cette action. Nul n'ignore ici les interactions subtiles qui existent chez lui entre un sentiment de frustration indéniable, dû à sa difformité physique, et ses pouvoirs psychiques exceptionnels. Cependant, c'est seulement après avoir entamé la phase 3 que nous avons pu déterminer a posteriori qu'il s'était montré capable de réagir de façon anormale en présence d'un autre être humain qui se trouvait nourrir à son endroit un sentiment d'affection authentique et spontané. Puisque cette anomalie dépendait de la présence de cet autre être humain à un moment donné, on peut estimer, dans cette mesure, que les circonstances en ont été entièrement fortuites. Nos agents ont acquis la certitude que c'est une jeune femme qui a tué le psychologue du mulet, une jeune femme qui inspirait au mulet une confiance née d'un tendre sentiment et dont, par conséquent, il ne contrôlait pas le cerveau, pour la simple raison qu'elle avait de l'affection pour lui. Cet événement nous a naturellement servi de leçon. Je précise d'ailleurs pour ceux qui désireraient en connaître les détails qu'une étude mathématique du problème a été réalisée puis déposée à la bibliothèque centrale. Nous avons ensuite entrepris de tenir le mulet en échec par des méthodes peu orthodoxes, qui mettent en permanence en péril l'ensemble du schéma historique mis au point par Seldon. J'ai terminé. »
Le premier orateur garda un instant le silence pour permettre à l'Assemblée d'assimiler toute la portée de ses déclarations. Puis il ajouta
« La situation se caractérise donc par une extrême instabilité. Le schéma originel de Seldon étant soumis à une tension proche du point de rupture, et je dois mettre l'accent sur le fait qu'une imprévoyance incroyable nous a amenés à commettre erreur sur erreur, nous sommes confrontés à l'éventualité d'un effondrement irréversible du plan. Le temps joue contre nous. Il ne nous reste, à mon avis, plus qu'une seule solution, qui elle-même comporte les plus grands risques. Nous devons faire en sorte que le mulet arrive à nous retrouver. Mais pas dans n'importe quelle circonstance, naturellement. »
Le premier orateur se tut à nouveau, observant les réactions de l'auditoire, puis il ajouta
« Je répète, pas dans n'importe quelle circonstance. »